Nous nous remercions, Seigneur. Trois heures, hein, pour venir. Merci. Eh bien, on va remercier le Seigneur quelques instants. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette belle soirée que tu as prévue pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons toutes les personnes qui vont venir encore dans ce lieu. Que ton nom soit élevé. Merci pour la parole qui va nous être adressée par notre frère. Merci pour ta parole, qu'elle soit puissante dans nos cœurs, qu'elle puisse, c'est vrai, Seigneur, nous avertir des temps de la fin. Et d'un autre côté, que nous voulons être vigilants pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Bientôt tu reviens, Seigneur, ton retour est plus proche qu'il n'a été. Alors, nous voulons nous réjouir en toi. Malgré toutes les difficultés que vive ce monde, nous voulons vraiment prendre conscience que tu es avec nous, et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur, tu es vivant. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et nous voulons poursuivre dans l'amour envers notre Dieu. Merci Seigneur. Et aussi envers notre prochain, afin qu'il ne se perde pas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons chanter, si vous voulez bien, Je suis né pour te louer. Ainsi, nous sommes ici, utilisons toutes les occasions que nous avons pour louer le Seigneur. En famille, quand c'est possible de le faire en famille, seul, bien sûr, on peut louer le Seigneur, même seul. Et en église, mais ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'on puisse le louer, l'adorer pour qui il est. Alors, on va se mettre debout, si vous voulez bien.
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour je suis fait pour toi, je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi.
Amen. Nous allons chanter aussi ce chant « Guéris ce pays, la Belgique est malade ». Nous voulons voir, et tout en louant le Seigneur, tout en adorant le Seigneur, nous voulons croire que ce pays peut être transformé par la puissance de l'Évangile. Nous croyons que ce pays, nous l'aimons, nous croyons que Dieu l'aime et que nous avons une bonne nouvelle à transmettre à ce monde qui périt. Racheter le temps, dit Jésus, dit Paul, non, c'est une parole de Dieu dans la bouche de Paul, et c'est une parole puissante de racheter le temps parce que ce pays a besoin de connaître la gloire de Dieu.
Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton ton Esprit Saint. Ton Esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller, guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint, guéris ce pays. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint.
Amen. Maintenant, je vais laisser toute la place au pasteur Mike Williams qui va nous apporter, je pense que c'est la 14e étude. Est-ce que c'est la 14e? Je pense. 15e. 16e? 16e.
16e étude. Donc c'est sur le chapitre, encore nous sommes dans le chapitre 16.
Nous allons terminer le
chapitre 16
et puis 17.
Quand nous sommes si peu,
oui.
Je pourrais m'asseoir.
Bien sûr, bien sûr. On pourrait enlever ceci même. Ah, vous aurez peut-être besoin d'un peu de temps. Ah ouais.
Ben, il y avait des bouchons un peu partout, hein. Comme il n'y a pas de train, bien sûr. Ça va aller comme ça? Oui. On se demande comment l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus se sont adressés à des milliers de personnes, alors sans micro, hein. Bon, nous complétons pour commencer ce soir, et ça ne durera pas longtemps, et puis nous passerons à l'autre chapitre, mais il nous restait une des sept trompettes à commenter, et je ne l'ai pas fait la fois passée parce que, en somme, ça aurait pris un peu trop de temps, mais aussi c'est un autre sujet. Avec le septième trompette, pardon, pas la septième trompette, le septième coupe d'or, hein, on complète les trois séries, chaque une de sept jugements. Donc, si vous voulez, nous sommes au 21e jugement de la grande tribulation. Et nous lisons ceci, et nous sommes à Apocalypse 16, verset 17. Le septième, c'est le septième ange, versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grelons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Il est clair que ce dernier des 21 jugements dépasse en grandeur et en intensité tous les autres. Il s'agit, nous l'avons lu, d'un tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Il y a déjà eu pas mal de tremblements de terre, n'est-ce pas? C'est pas nouveau, les tremblements de terre. Il ne se passe presque pas de semaine maintenant, sans qu'on ne lise que quelque part dans le monde, il y a un tremblement de terre. Et il y en a même eu en Belgique récemment. Très petit. S'il vous plaît? Récemment, il y a quelques semaines. Nous ne l'avons pas senti, c'est enregistré seulement sur les instruments, mais il y en a eu. Et le nombre et la fréquence des tremblements de terre croît en flèche depuis quelques décennies. Et la Bible décrit, non seulement ici, mais dans d'autres textes, je vais en lire quelques-uns, décrit les tremblements de terre des temps de la fin. Ézéchiel dit, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. La terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Nous avons déjà vu au chapitre 6 de l'Apocalypse. Nous avons déjà vu un premier tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Mais maintenant, ce septième de la dernière série de jugements est plus grand que tous les autres. Et cela explique pourquoi la voix forte dans le temple céleste crie son effet. Dieu lui-même y met fin. Nous nous rappelons une expression pareille de Jésus à la croix. Tout est accompli. Et il est intéressant de voir. Il y a différentes explications de ce grand tremblement de terre. Pourquoi est-ce qu'il est plus grand ou s'il serait plus grand que tous les autres que la terre n'a jamais connus? D'habitude, un tremblement de terre est dû à quoi? C'est un mouvement de la croûte de la terre, n'est-ce pas, qui cause un tremblement de terre. Mais ce tremblement de terre qui constitue le dernier jugement semble être autre chose. Semble. C'est pas une certitude. Mais Ésaïe dit, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. La terre chancelle comme un homme ivre. L'explication des Juifs, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Je vous le donne, vous décidez vous-même si vous le croyez ou pas. La terre actuellement a un axe, la planète a un axe, une inclinaison de 23,5%. Ce qui cause le froid extrême au pôle et la chaleur à l'équateur. Les Juifs disent que au début c'était pas comme ça. Il y avait le paradis partout sur la terre. Et pour que il y ait le paradis sur toute la terre à la fin, il faut que la terre retrouve son inclinaison originale. C'est leur idée. Et ce tremblement de terre que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, mais comme je vous ai déjà montré, est aussi prophétisé dans l'Ancien Testament, donc dans les Écritures des Juifs. Ils disent, cela, c'est Dieu qui remet la terre sur son axe original. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui disent, ça se prépare. Les glaciers au pôle fondent. Le niveau de la mer monte. Vous, au Bois de Villers, vous ne risquez pas beaucoup. Nous, à Anvers, notre maison est à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il se peut que d'ici peu, on doit mettre son maillot de bain, n'est-ce pas? Comprenez? Et puis, ce tremblement de terre est accompagné d'une grande pluie de grêlons qui vont, ces grêlons vont causer des dégâts considérables. Nous avons des tempêtes de grêlons ces derniers temps, même en Belgique, n'est-ce pas? On a eu à Anvers, il y a quoi, l'année passée ou il y a 2 ans, ta voiture a été très endommagée, hein? Des grêlons comme ça, je sais pas, ça pèse combien ça?
5 centimètres.
Combien? 5 centimètres, ça pèse quoi? 50 grammes, peut-être? Le poids ici, c'est un talon. Les grêlons d'un talon, 50 kilos. Veillez à ce que votre voiture soit dans le garage, n'est-ce pas, et que le toit de votre garage soit renforcé. Le monde n'a jamais connu ça. Ce sont des choses, nous avons vu des autres jugements, comme le monde n'a jamais connu. Mais ceci, ce jugement-ci est plus grand, plus fort, plus intense que tout le reste. Ce qui est vrai, c'est que les animaux, les plantes, les buissons, les arbres vont être détruits. Il y a peu qui résistent à un poids de 50 kilos. Si vous en recevez sur votre tête, vous n'y êtes plus. C'est clair. Et dans la Bible, il est aussi clair que la grêle est souvent un instrument de jugement divin. Déjà, si nous remontons aux précurseurs des jugements de l'Apocalypse, c'est-à-dire les jugements, les 10 jugements sur l'Égypte, l'un de ces jugements, Exode 9, l'Éternel dit à Moïse, étend ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, les animaux, sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, le feu se mêlait avec la grêle, elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. À ce moment-là, c'était limité à un seul endroit, un seul pays. La Belgique n'en a rien remarqué à l'époque. Mais ce dernier jugement est mondial. Aucun endroit n'échappera. Ce plaid d'Égypte a été répété. Si nous lisons dans le livre de Josué, les Amoréens fuyaient devant Israël, l'une de ces tribus cananéennes qui occupait Israël. Les Amoréens fuyaient devant Israël, ils étaient à la descente de Beth-Horon, et l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Et ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Encore cela, ce n'est que un avant-goût, ou ce n'était qu'un avant-goût de cette tempête de grêle qui accompagnera le dernier tremblement de terre. Nous avons d'ailleurs déjà vu quelque chose de pareil dans le livre de l'Apocalypse. Le premier trompette, le premier jugement, donc, de la deuxième série. Le premier ange sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, toute herbe fut brûlée. Quelques chapitres plus loin, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça se répète dans ce dernier jugement, mais maintenant plus étendu, plus grand, plus intense, plus fort. Quelle est la réaction des hommes? Eh bien, le refrain, si vous voulez, triste refrain que nous avons déjà lu plusieurs fois, les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. L'homme n'apprend jamais, hein? L'homme n'apprend jamais. Au lieu de dire, ceci c'est vraiment, ça dépasse toutes les limites, maintenant il faut que nous nous repentons, il faut que nous nous convertissions à Dieu, non, ils s'endurcissent. Pharaon, la même chose. Il a eu aussi les fléaux. Il s'est endurci jusqu'à ce que ça ait coûté la vie de son fils aîné. L'homme n'apprend pas. Les gens n'apprennent pas. Et voilà, nous avons cette conclusion terrible. Déjà dans le texte que nous avons lu, il y a eu, et on l'a lu en passant, nous avons lu, Dieu se souvint de Babylone la Grande. Babylone n'a été guère mentionnée jusqu'à présent. Mais nous passons maintenant au chapitre 17, et là, nous allons voir un tout autre sujet, mais qui va nous amener à regarder la fin du monde se passer devant nos yeux. Et cela ne commence pas à Jérusalem, ça termine à Jérusalem. Mais ça commence à Babylone. Le premier verset du chapitre 17, le chapitre suivant, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Les jugements sont terminés, et maintenant, la fin des temps de la fin commence. Et les choses vont se passer maintenant très très vite. Il ne s'agit plus d'années ou de mois, ni même de semaines. Il s'agit de jours, ou peut-être même seulement d'heures. Et ce série d'événements extraordinaires qui marquent la fin du règne de l'Antichrist et la destruction de son empire commence à Babylone. Qu'est-ce que nous devons en penser? Babylone, c'est quoi? C'est littéral? C'est symbolique? C'est spirituel? Oui, tous les trois. Vous pouvez lire des commentaires sur l'Apocalypse qui se concentrent uniquement sur le symbolique, ou qui se concentrent uniquement sur le spirituel, mais qui oublient le littéral. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Babylone n'existe plus. Mais au centre de tous ces événements se trouve Babylone, ces derniers événements. Et Babylone est une ville, est un empire qui a joué des rôles très importants dans l'histoire du monde ancien. Et même si Babylone, la ville ou l'empire, n'existe plus à l'heure actuelle, l'influence, et j'essaierai tout à l'heure d'en dire plus, l'influence de Babylone influence toujours le monde aujourd'hui en très grande mesure. On ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, c'est l'influence de Babylone. Pas l'influence de la ville littérale, qui n'existe plus, mais de ce que Babylone a représenté et a lancé dans le monde qui aujourd'hui travaille encore. Pourquoi est-ce que je dis que Babylone doit aussi être compris littéralement? Eh bien, parce que la Bible montre que la ville de Babylone, connue des temps anciens, sera reconstruite pendant les temps de la fin. Ses caractéristiques, nous les verrons, sont décrites tout au long des chapitres 17 de l'Apocalypse, et sa destruction est décrite en détail dans le chapitre 18. Et pendant la grande tribulation, le centre du monde, le centre administratif, culturel, commercial, religieux, ne sera pas à New York, ne sera pas à Bruxelles, ne sera même pas à Jérusalem, mais sera à Babylone. Babylone représente un modèle de culture et de civilisation qui est humaniste, dans le pire sens du terme. Humaniste, mais pas nécessairement humain. Il y a une différence. Et ce système humaniste que nous connaissons autour de nous prend de plus en plus d'ampleur, dans ce sens que il a déjà remplacé Dieu dans beaucoup de domaines. Et les quelques domaines où Dieu a encore quelque chose à dire dans le monde, l'humanisme essaye encore de repousser Dieu. Qu'est-ce que c'est l'humanisme? Je ne vais pas prêcher l'humanisme, ça vous comprenez. Mais qu'est-ce que c'est l'humanisme? Eh bien, c'est en somme la religion, je mets le mot religion entre guillemets, qui met l'homme au centre, au lieu de Dieu. Ça, c'est une définition laïque. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en somme, c'est ça. N'est-ce pas? L'humanisme dit, Dieu n'est pas le centre de l'univers, c'est l'homme. Et on ne peut pas inventer un plus grand blasphème contre Dieu que de repousser le seul Dieu, le Sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Père du Fils Jésus-Christ, repoussé, blasphémé, et tout cela par Babylone. Au temps de l'Apocalypse, donc, où Jean écrit l'Apocalypse, la ville de Babylone existait toujours. Certes, elle n'avait plus la puissance et le pouvoir qu'elle avait connu quelques 5-6 siècles auparavant, mais elle était toujours une ville importante, commerciale, culturelle, religieuse. Où est-ce qu'elle se trouvait? Eh bien, dans le pays qu'aujourd'hui on appelle l'Irak. Elle se trouvait au bord, les deux bords du fleuve Euphrate. Depuis à peu près l'an 700 de notre ère, donc 700 après Jésus-Christ seulement, la ville de Babylone a été détruite et elle n'a jamais plus été reconstruite. Ce n'était pas la première destruction de Babylone. Comme la plupart des villes de l'ancien temps, Babylone a été détruite, saccagée plusieurs fois et reconstruite. Je ne sais pas combien de fois. Si je vous dis que Jérusalem, dans son histoire, a été détruite et reconstruite non moins que 27 fois, pourtant Jérusalem est toujours là. Babylone, je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs fois, la ville a été vaincue, saccagée, détruite, reconstruite. Vers l'an 300 avant Jésus-Christ, pour la énième fois, la ville de Babylone fut détruite. Et à ce moment-là, son souverain sacrificateur s'est enfui avec ses prêtres. Vous vous rappelez peut-être quand nous avons parlé des lettres du Christ glorifié aux sept églises dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, une de ces lettres est adressée à l'église à Pergame. Eh bien, c'est justement à Pergame que le souverain sacrificateur de Babylone et ses prêtres s'est enfui lors de la destruction de la ville vers 300 avant Jésus-Christ. Pergame était en Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Et dans la ville de Pergame, l'emblème du serpent, qui était un emblème très ancien des religions païennes, a été élevé. Et cet emblème était un emblème mystique. Ça devait représenter la sagesse cachée. Et quand les Romains ont vaincu l'Asie mineure, d'abord les Grecs, l'histoire d'Alexandre le Grand, et puis vers les années 200 à 150, les Romains, avant Jésus-Christ, 200-150 avant Jésus-Christ, les Romains, ils ont vaincu aussi l'Asie mineure et donc aussi Pergame. Bien sûr, pour les Romains, c'était impensable que le centre de la religion mondiale se trouve dans une ville de province, et ils ont déménagé le souverain sacrificateur, ses prêtres, ses idoles, etc., à Rome. Alors que dans le Nouveau Testament, nous trouvons le centre de la religion païenne, ce n'est plus à Babylone, ce n'est plus à Pergame, mais c'est maintenant à Rome. Et le souverain sacrificateur portait sur sa tête une, comment ça s'appelle en français, un mitre, oui, une espèce de turban, hein, qui était dans la forme, si vous regardez une mitre et vous employez un tout petit peu d'imagination, ça a la forme d'une tête de poisson. Qu'est-ce qui représente cette forme de tête de poisson? Dans la religion païenne, il y avait des ordres, comme il y a dans l'Église catholique de notre temps. Et l'ordre principal était l'ordre du Dieu qui avait des différents noms selon les différents pays. Les Philistins l'appelaient Dagon. Je cite ce nom-là parce qu'il est dans la Bible. Et Dagon, le mot veut dire « seigneur de la vie », donc le plus grand dieu de tout, son idole était dans la forme d'un poisson. Les Babyloniens, toutes les religions païennes étaient les mêmes. Les dieux changeaient de nom selon la langue et le pays, mais la religion était la même. Et ces formes du culte ancien s'établissaient partout. Donc les Philistins l'avaient, les Grecs l'avaient, les Romains l'avaient, les Babyloniens l'avaient. Mais ça commence en Babylone. Nous savons où Babylone a commencé. L'histoire de la tour de Babylone. Où l'homme dit, je vais construire une tour, comme ça, je pourrai grimper jusqu'au ciel. N'est-ce pas? Il veut de sa propre force être Dieu. Et ça a toujours été dans le concept du diable. Quand Satan séduit Ève, qu'est-ce qu'il lui dit? Mange de ce fruit et vous deviendrez comme Dieu. L'homme qui veut être au centre. À la place de Dieu. Il veut remplacer Dieu. Et ça, c'est, si vous voulez, l'humanisme. Mais dans l'Ancien Testament, rien d'autre que le babylonisme, si vous me permettez l'expression. Quand le souverain sacrificateur du babylonisme s'installe à Rome, il se donne un titre, et ce titre est très intéressant, un titre qu'il ne s'était pas donné auparavant. Et ce titre, c'est Pontifex Maximus. Et qu'est-ce que c'est Pontifex Maximus? On peut le comprendre en français. Pont, c'est quoi? Un pont qui relie deux choses. Le pont, dans l'idée de la religion païenne, c'est, ça relie l'homme à Dieu. Et fex en latin, ça veut dire faire, construire. Maximus, c'est le chef. Donc Pontifex Maximus, c'est le constructeur en chef de pont. Pas de pont sur la Meuse, mais le pont entre l'homme et Dieu. Donc, on a l'idée dans la religion païenne d'un médiateur entre l'homme et Dieu. Nous disons, le seul médiateur entre l'homme et Dieu n'est pas celui qui porte le mitre à Rome, qui est notre seul médiateur, il s'appelle Jésus-Christ. Mais la religion païenne a toujours eu ce Pontifex Maximus. Quand Jules César devient chef de l'État romain, il prend sur lui le titre Pontifex Maximus. Et donc, le chef de l'État, le chef politique, si vous voulez, de l'État, devient maintenant aussi le chef de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrôle. Il contrôle tout. Et comment est-ce que cette influence se répand jusqu'aujourd'hui? Passons de Jules César à peu près 3 siècles après. Et là, nous avons un empereur romain qui s'appelle Constantin le Grand. Constantin ou Constantin en français? Constantin, oui, le Grand. Qui se voit confronté à une armée de ce que les Romains appellent barbares, ça veut dire non-romains, mais une armée tellement grande qu'il n'a absolument aucune chance de gagner la bataille. Il sait ça, il va le perdre. Demain, il est mort, et tous ses soldats aussi. Il se trouve devant un petit fleuve. La nuit, il a un rêve. Il faut que je vous dise que sa maman s'était déjà convertie au christianisme et lui avait raconté l'évangile. Dans la nuit avant la grande bataille qu'il va certainement perdre, il a un rêve. Et dans son rêve, il voit une croix, la forme d'une croix. Et il entend une voix qui lui dit, dans ou sous cette signe, tu vaincras. Il réveille ses troupes, les fait tous baptiser dans le fleuve pour qu'ils deviennent chrétiens, et sur leur bouclier, peindre une croix. Quelques heures après la grande bataille, et contre toute possibilité, Constantin grimpe, il vainque. Il réussit. Il se convertit au christianisme, et tout son empire avec, obligatoire. Mais maintenant, il a un problème. Dans tout son empire, dans toutes les villes, il y a des temples. Tous ces temples ont des prêches, des autels, des idoles. Les prêtres sont payés, salariés par l'État. Il y a toutes les cérémonies, toutes les fêtes, beaucoup de commerce dans tout l'empire dépendent des temples. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cela? Détruire tous les temples? Envoyer tous les prêtres au chômage? Les commerçants qui vont manifester? Etc. Qu'est-ce que fait Constantin? Génial, faut l'admettre. C'est dommage qu'il l'ait fait, mais c'est génial quand même. Il a tout simplement converti la religion païenne au christianisme. Dorénavant, les temples s'appellent Église. Les prêtres gardent leur uniforme. Les autels restent. Maintenant, on célèbre l'offrande de la messe. Les idoles changent de nom. Mercure devient Saint Paul, Apollos devient Saint Pierre, etc., etc. On continue à payer les salaires par l'État. Tout le monde est content. Et la tête de l'Église continue à porter sa mitre et s'appeler Pontifex Maximus. Intéressant. Le début de ce qu'aujourd'hui s'appelle l'Église catholique. N'est-ce pas? Tout est toujours en place. Je ne veux pas dire par cela que chaque membre de l'Église catholique est donc un adhérent d'une religion païenne. Je suis convaincu qu'il y a des catholiques qui connaissent le Seigneur et qui servent Dieu sincèrement, mais on ne peut pas nier le fait que l'origine de l'Église catholique est dans la religion païenne. Si je remonte encore au temps du Nouveau Testament, quand nous lisons les Actes des Apôtres, tout au début, Jésus monte au ciel, premier chapitre des Actes des Apôtres. Les disciples sont laissés. Maintenant, ils n'ont plus Jésus avec eux. Et les disciples doivent maintenant établir l'Église. Tous les disciples sont des Juifs. Aucun des disciples n'a voyagé hors Israël. sont tous des hommes simples. Ils ne connaissent que la religion juive. Ils savent que la religion païenne existe, mais ils n'en ont jamais fait partie, ils n'ont aucune expérience. Mais ils connaissent le judaïsme sous deux expressions. Au temps du Nouveau Testament, tous les deux aussi valables. C'est-à-dire, le judaïsme du temple à Jérusalem, avec souverain sacrificateur, prêtre, autel, pas idole, cérémonie, fête. Et l'autre manifestation ou expression du judaïsme, qui est dans toutes les villes et villages, la synagogue. Les disciples vont structurer l'Église, organiser et structurer l'Église, et ils vont choisir entre ces deux modèles, modèle temple ou modèle synagogue. Temple, un modèle hiérarchique, avec lieu de culte, lieu saint, etc., prêtre, uniforme, autel, sacrifice. Et le modèle synagogue, où on a un ancien ou des anciens, des diacres, des cultes qui ne contiennent pas d'holocauste, mais qui consistent de prières et de chants d'adoration et de lecture et de prédication de la parole. Quel modèle est-ce qu'ils choisissent pour l'Église? Clairement pas le modèle temple. Qui d'ailleurs, 40 ans plus tard, va disparaître parce que Jérusalem va être détruit dans l'an 70. Non, ils choisissent le modèle synagogue. Et si nous voyons nos églises, je dirais le monde évangélique aujourd'hui, il est clair que nous sommes modélés sur la synagogue et pas sur le temple. Donc, modelé sur ce que les apôtres ont établi, tandis que l'Église catholique a essayé de christianiser la religion païenne et est toujours modelé selon ce modèle-là. Le titre Pontifex Maximus a été transféré aux évêques de Rome et est hérité jusqu'aujourd'hui par les papes, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, le pape, il porte sur sa mitre Pontifex Maximus. Il est le médiateur en chef entre l'homme et Dieu. Il dit, ou les catholiques disent, qu'il est le successeur de l'apôtre Pierre. Ça n'est en aucun cas la vérité. Il n'a rien à faire ou à voir avec l'apôtre Pierre. Il a plus à faire et à voir avec le souverain sacrificateur de l'ancienne religion babylonienne. Babylone représente donc l'humanisme culturel et spirituel, donc religieux. Pendant des siècles, Babylone a été une grande ville. Nous connaissons son roi peut-être le plus célèbre, qui s'appelait Nebuchadnezzar. Un roi excessivement idolâtre. Les Babyloniens, comme empire, ont été envahis et vaincus par les Médo-Perses. Ça dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Dans l'an 323, c'est les Grecs qui sont devenus chefs et maîtres de l'empire babylonien, l'histoire d'Alexandre le Grand. Une bonne centaine d'années après, l'histoire d'Alexandre le Grand, donc l'Empire grec, s'est vu vaincre par les Romains. Mais la religion, même si elle a changé parfois de nom, est restée la même. Ça a toujours été une religion humaniste, l'homme au centre. Dieu n'y avait rien à faire. Au temps du Nouveau Testament, Babylone était encore une ville importante. L'apôtre Pierre a probablement écrit son premier épître de la ville de Babylone. Il dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue. Donc soit il était là, soit il a été là récemment. Donc il y avait une église à Babylone. Et nous pouvons lire dans l'Ancien Testament toute une liste de prophéties concernant Babylone. Certaines de ces prophéties ont déjà été accomplies. D'autres, pas encore. Et comme toute prophétie biblique s'accomplit littéralement jusqu'à la dernière lettre, pour que toutes les prophéties bibliques concernant Babylone s'accomplissent, il faut que la ville soit reconstruite. Vous rappelez un dictateur récent du pays de l'Irak qui s'appelait Saddam Hussein? Oui, il a été tué. Mais Saddam Hussein avait déjà commencé la reconstruction de la ville de Babylone. La porte principale, la porte d'Ishtar, était déjà reconstruite. Et j'ai même reçu une invitation via un ami que je connaissais bien à l'époque à assister à l'inauguration de cette porte d'Ishtar. Si je serais allé ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, cette ignoration n'a pas eu lieu parce que il y a eu la guerre d'Irak et l'inauguration a été annulée. Je ne sais pas si cette porte existe encore. Mais Saddam Hussein, qui se croyait un grand de la terre, etc., il avait déjà construit ou entamé la reconstruction de la ville. Et la Bible révèle que dans les temps de la fin, cette ville de Babylone sera reconstruite et redeviendra le centre mondial de commerce international et de culture, de richesse, de religion. Dans les chapitres 17 et 18, la ville de Babylone est mentionnée 7 fois par son nom. Et les prophéties qui concernent cette ville sont aussi bien littérales que symboliques. Qu'il s'agit de la ville, la même ville littérale que dans les temps anciens, est confirmé par deux versets qui sont les textes identiques. D'abord, Ésaïe 21:9, elle est tombée Babylone. Répétez exactement en Apocalypse 18, elle est tombée Babylone. Quand la Bible se répète comme ça, elle est tombée, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est souligné, que les lettres sont en majuscules, que Dieu veut que nous sachions que cela va s'accomplir. Ici, il y a une signification additionnelle, supplémentaire. Elle est tombée, Ça veut dire deux fois elle est tombée. Elle est déjà tombée une fois, dans les années 700 de notre ère. Elle tombera une dernière fois, une seconde fois, maintenant au temps de la fin. Mais si elle va tomber une deuxième fois, il faut qu'elle soit reconstruite après la première fois, n'est-ce pas? Ça, c'est logique. Revenons à la tour de Babel. Qu'est-ce que représente la tour de Babel? L'homme qui essaye de monter au ciel par sa propre puissance, ses propres efforts, mais aussi la religion qui rebelle, une rébellion contre Dieu. L'homme veut être chef et maître, pas Dieu. Personnifié dans l'histoire de la tour de Babel par Nimrod. Cette religion païenne que nous avons lue dans ces premiers versets de Apocalypse 17, la référence « la grande prostituée ». L'expression « la prostituée » n'est pas nouvelle dans l'Apocalypse. La religion païenne a toujours été appelée la prostituée dans la prophétie. Nous avons tout le livre d'Osée, n'est-ce pas? Je ne vais pas essayer de l'expliquer ce soir, ça prend trop de temps. Mais tout le livre d'Osée, c'est un livre prophétique. Ce sont des choses qui se sont passées littéralement, mais ces choses qui avaient une signification non seulement littérale à l'époque, mais aussi symbolique et prophétique pour l'avenir. Et justement, dans l'Apocalypse 17, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adresse à la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Vous vous rappelez ce que nous avons regardez que nous avons montré ce que ça veut dire, les grandes eaux, ce sont les nations, les peuples de la terre. Cette religion, cette fausse religion mondiale qui est assise sur les nations de la terre. Je vous montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. C'est quand même étrange. Ça fait partie du même système. Dans le système de Dieu, il y a l'unité. Dans le système du diable, il y a la division. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Cette grande prostituée est Babylone, la mère des adultères et des abominations du monde. Elle est assise sur les grandes eaux, tous les peuples, les tribus du monde. Et je n'ai pas besoin de vous dire que les principes de Babylone, déjà depuis longtemps et de plus en plus de notre temps, sont étendus partout dans le monde. Vous allez dans n'importe quel pays, l'humanisme règne. La fausse religion règne. Et le fait que ces principes de Babylone deviennent le code social qui domine, comme autour d'ailleurs de la tour de Babel dans la vieille civilisation, confirme aussi que cette nouvelle Babylone sera une ville littérale. Babylone, la grande prostituée, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande tribu prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Babylone donc sur l'Euphrate. C'est à la fois une ville littérale, mais aussi un symbole de la puissance mondiale politique et commerciale et économique dans les temps de la fin. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Et l'image de la grande prostituée assise sur les peuples, le royaume du monde, comprend tous les royaumes. Tous les royaumes. Y compris le dernier royaume, qui est le royaume mondial des temps de la fin, et dont le roi est l'Antichrist. Et la culture babylonienne est personnifiée dans les derniers temps par l'image de la grande prostituée, la culture, le culte de l'Antichrist, glorification systématique de tout ce qui est idolâtre, du pouvoir humain, du plaisir sensuel, matérialisme, adoration du diable. J'ai pas besoin d'élargir, n'est-ce pas? C'est autour de nous. Déjà maintenant, tout est déjà prêt. Nous, chrétiens, nous voyons ça. Le monde ne le voit pas. Le monde dit moderne. Hein? Nous sommes libres. Nous ne sommes plus enchaînés par cette religion de Dieu et ses scrupules anciennes, etc. Tout cela a saturé au cours des siècles, a saturé tous les peuples et tous les royaumes du monde. Ça a commencé au début, mais déjà maintenant, il est total, cette saturation est totale. C'est nous qui sommes les étranges, n'est-ce pas, aux yeux du monde. Nous sommes les gens un peu, bon, même beaucoup étranges. Vous croyez encore en Dieu? Nous ne sommes pas nombreux dans le monde. Nous sommes nombreux, mais nous sommes minorités. Il arrivera, cet empire, à son apogée, quand ça, pendant le régime de l'Antichrist. Donc tout ce qui est déjà en place maintenant, ce ne sera pas difficile pour l'Antichrist de régner là-dessus. On va l'accueillir. Et puis, cette grande prostituée n'est pas la même, n'est pas identique à la bête, parce qu'elle est assise sur la bête. Mais elle partage beaucoup de ses mauvaises caractéristiques. Elle joue un rôle important dans la puissance mondiale. Puissance blasphématrice, rebelle de Babylone. Elle repousse toute vraie religion. Elle tente de séduire la totalité de la population du monde dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Pourquoi la grande prostituée? Vous vous rappelez, il y a quelques soirées, vous avez parlé du fait que le diable imite tout ce que Dieu fait. Alors il a besoin d'une femme, n'est-ce pas? Il a besoin d'une femme dans son obsession d'imiter tout ce que Dieu fait. Il n'a pas encore de mari. Il a besoin d'une Marie pour compléter son imitation. Marie, la mère de Christ. Prostituée. Qu'est-ce qui peut être plus grande que la distance entre la Vierge Marie d'un côté et la grande prostituée de l'autre, n'est-ce pas? L'une qui est qui représente, si vous voulez, le maximum de pureté, et la grande prostituée, qui est exactement le contraire. Le diable imite. Et nous avons vu la coupe du Seigneur représente son sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et cette coupe qui représente le sang de Jésus contient donc, symboliquement, le salut du monde. Tandis que la coupe de l'Antichrist est pleine de péchés, d'abominations et la fin du monde. Assez tôt dans l'histoire de l'Église, Rome, ou plutôt l'Église de Rome, l'Église des papes, l'Église présidée par le Pontifex Maximus, fut liée déjà à Babylone à cause de son mélange de l'autorité religieuse et autorité politique. Il y a des livres qui disent que la grande prostituée, c'est l'Église catholique. Je ne crois pas que c'est vrai. Parce que elle représente quelque chose de beaucoup plus large que l'Église catholique. Elle représente tout ce qui est fausse religion. L'islam, bouddhisme, hindouisme, etc., etc. Pas seulement l'Église catholique. Et toutes ces fausses religions vont se fusionner dans les temps de la fin, dans une seule religion mondiale, avec à la tête le Pontifex Maximus, l'Antichrist. Et Babylone, la prostituée, régnera alors sur le monde entier. Son pouvoir, son autorité découle de la bête. Elle s'enivra du sang des martyrs, des croyants. Donc Babylone représente en premier lieu un système de fausses religions. Deuxièmement, Babylone symbolise le système économique, matérialiste, capitaliste, probablement. Surtout au temps de la fin. En somme, quel système économique domine le monde maintenant? Le capitalisme. Une grande partie du monde a essayé un autre système, de notre temps, non, encore. Le communisme. Ça n'a pas trop bien marché, n'est-ce pas? Et cette partie du monde qui avait essayé le communisme l'a abandonné. Pour adopter quoi? Le capitalisme. Dans une prophétie dans le livre de Daniel, encore une fois, il faudrait une autre soirée pour parler de tout cela, mais dans, si vous voulez le lire à la maison, c'est Daniel chapitre 2, dans cette prophétie de Daniel, il parle de royaumes successifs, et il arrive au quatrième royaume, qui est le dernier. Et il dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui avait tout en pièces. N'oublions pas que Daniel, lui, vit à peu près 6 siècles avant Jésus-Christ, dans l'ère qu'aujourd'hui les scientifiques et les historiens appellent l'ère de feu, de fer. C'est ça? Oui, hein? L'ère de fer. On a d'abord l'ère de pierre et puis on a l'ère de bronze et puis l'ère de fer. Daniel vit là-dedans. Et le fer, il est plus fort que la pierre et que le bronze. Hein? Les Philistins avaient des chariots de fer, c'était tout nouveau. Dernier modèle de char. Les Israélites ne les avaient pas, ils étaient impuissants. Il est clair qu'une lance ou une épée de fer est 10 fois plus utile qu'une épée ou une lance de bronze. Bronze est beaucoup plus fragile, n'est-ce pas? Ça casse beaucoup plus facilement. Donc, il y aurait un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer avec tout en pièces, qui met tout en pièces. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. L'argile est souvent un symbole de l'être humain dans la parole de Dieu. Mais ils seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile, on ne peut pas mélanger les deux. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, cette prophétie parle de la fin des temps. Le royaume, le quatrième royaume mondial qui soumettra tous les autres. Et puis Daniel voit encore un royaume qui sera suscité par Dieu et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple et qui brisera tous les autres royaumes. Dans la fin des temps, nous avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse 10 royaumes qui se réunissent sous l'Antichrist pour régner sur le monde. Daniel voit ces mêmes 10 royaumes sous la forme de 10 cornes dans sa vision au chapitre 7. Et là encore, il faudrait lire toute l'histoire du chapitre 7, et peut-être que vous pouvez le faire à la maison, il faudrait une soirée pour commenter tout cela. Je vais quand même lire la partie la plus importante de la prophétie pour que nous puissions voir que l'Ancien et le Nouveau Testament correspondent, se complémentent. Daniel dit, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant lesquels 3 sont tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Il parle de l'Antichrist. Hein? Je vis 7 cornes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours, synonyme dans l'Ancien Testament de Dieu lui-même, vint donner au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parle ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Nous avons déjà vu que ça veut dire 3 ans et demi. Donc, les 3 ans et demi, la moitié de la grande tribulation. Puis, viendra le jugement. C'est ça que nous allons lire en Apocalypse 17 et 18. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Vous vous rappelez que Jésus promet à un disciple, vous régnerez. 12 trônes avec moi. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs lui le serviront et lui obéiront. Quand le monde adore les idoles, ces soi-disant dieux qui ne sont pas du tout des dieux, et quand ainsi on vend son cœur aux idoles, qu'est-ce qui se passe? Des fausses doctrines, des fausses religions prennent la place de Dieu. Et dans la Bible, cela est souvent comparé à l'adultère. Quand l'homme court après des faux dieux, Dieu dit, il est adultère. Vous avez lu ça dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jérémie, l'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte, sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. » Jérémie prophétise à Juda. Dans le temps, après que le royaume du Nord, les 10 tribus d'Israël, avaient déjà été emmenés en exil par les Assyriens. Il n'y a que Juda et Benjamin qui restent. Et Jérémie dit, vous avez vu ce qui s'est passé à Israël parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils ont couru après des autres dieux, ils ont commis l'adultère, ils se sont prostitués avec des fausses idoles. Vous avez vu ça. Et au lieu de tirer la leçon et de rester fidèle à Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait exactement la même chose qu'eux. Et vous allez être jugés aussi. Et cela s'est passé aussi. En 600 et 6 avant Jésus-Christ. Judas et Benjamin ont été emportés en exil aussi. Le détail du portrait du caractère de la grande prostituée, le détail est important pour l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs. Les rois du monde ont toujours commis l'adultère avec la prostituée babylonienne. N'est-ce pas? Dans la mesure où eux et leurs sujets ont adopté les principes babyloniens. Si je vous demande le monde dans lequel nous vivons, notre pays de la Belgique, est-ce que nous sommes dirigés par des principes bibliques? Non. S'il vous plaît. Entre autres, c'est l'humanisme qui règne, n'est-ce pas? On parle toujours, beaucoup aujourd'hui, des droits de l'homme, les droits de Dieu. Non, il n'a plus aucun droit, l'homme ne lui donne plus aucun droit. On veut le bannir de plus en plus. Votre pasteur vient de me parler avant la réunion, on commence maintenant à la bannir des écoles. Même les cours de religion protestante vont être diminués et vont disparaître. C'est clair. Babylone a un caractère religieux. Elle est une fausse religion qui persécute les vrais croyants en Dieu. Et quand le monde aura eu assez de la religion, c'est-à-dire la religion, la fausse religion, la religion artificielle, qui n'est qu'un pauvre, très pauvre reflet de la vraie foi en Dieu. Qu'est-ce que le monde fait? Il se tourne vers le matérialisme. N'est-ce pas? Le monde a perdu la vraie foi en Dieu il y a des siècles déjà. Oui, il y a eu le réveil de la Réformation, qui était formidable. Mais qu'est-ce qui en reste? Vraiment, qu'est-ce qui en reste? Très peu. Il y a eu un moment où le réveil de la Réformation a même influencé des gouvernements, des rois, où certains principes bibliques ont été restaurés, mais ça n'a pas duré longtemps. La fausse religion ne peut jamais satisfaire. Pourquoi est-ce que les gens quittent l'Église en masse? Vous ne quittez pas quelque chose qui vous satisfait. Vous ne délaissez pas quelque chose qui vous fait du bien. Au contraire, vous vous y accrochez. Nous, j'espère, j'ose dire, vrais chrétiens, impensable de quitter Dieu, de quitter l'Église. Nous nous accrochons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous passez un vendredi soir ici et pas devant votre télévision, ou dans un dancing, ou une boîte de nuit, ou ce... Pourquoi? Parce que nous avons trouvé quelque chose qui donne une satisfaction que le monde est incapable de nous fournir. Il le promet. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui l'ont essayé et qui ont découvert que les promesses sont fausses. Et alors nous avons trouvé le vrai, impensable de le quitter. Mais quand on adhère à une fausse religion, ces gens qui vont à l'église y vont parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais quand ils ne le trouvent pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de chercher, non. Ils vont aller le chercher ailleurs. Et il semble, soyons honnêtes, il semble que le monde d'aujourd'hui, le monde capitaliste, prospère, richesse, fournit ce que l'Église promet. Je ne parle pas de cette Église-ci, mais l'Église, hein? L'Église promet bonheur, prospérité, etc., paix, mais ne tient pas sa promesse. Si vous êtes riche, vous pouvez vous acheter la prospérité et le bonheur. La paix, je ne suis pas sûr. Mais vous voyez, quand la religion, la fausse religion, ne satisfait pas, les gens se tournent à la prospérité. C'est ce qui se passait entre les deux guerres. Et quand la prospérité fut détruite par les bombes, l'Église était de nouveau remplie. Les églises étaient de nouveau remplies. Parce qu'on a vu que ça ne satisfait pas. Guerre terminée, la prospérité revient, l'Église se vide. Et ça a toujours été le cas. Parce que la fausse religion ne peut jamais satisfaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne quitte pas seulement la fausse religion. Ça, c'est le premier pas. On finit même par se tourner contre cette fausse religion à laquelle, auparavant, on a adhéré. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Ceux qui ont suivi le babylonisme, la grande prostituée, quand ils voient que elle non plus, elle ne satisfait pas, au lieu de l'adorer, ils se tournent contre elle. Et elle finit par être détruite complètement. Et alors nous lisons, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ça, c'est fort. Mais il faudrait attendre la prochaine soirée pour voir comment ça va se dérouler dans la pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention.
Toujours passionnant et fort. Alors, nous remercions le Seigneur. Nous voulons prendre peut-être quelques moments pour remercier Dieu, oui. C'est la 8h30.